Chapitre 10 La hache de guerre. N'importe qui peut tuer. C'est une simple question de circonstance et ça n'a rien à voir avec le caractère. N'importe qui, n'importe quand. Même votre propre grand-mère. Je le sais. Patricia Highsmith. 1 La conversation avec mon père m'avait donné la nausée, mais ne m'avait pas appris grand-chose de nouveau. Lorsque je revins dans la cuisine, ma mère avait poussé mes cartons et s'était mise au fourneau. « Je vais te préparer une tarte aux abricots, tu aimes toujours ça. » C'était quelque chose que je n'avais jamais compris chez elle, mais qui était constitutif de sa personnalité. Cette capacité à souffler le chaud et le froid. Parfois, Annabelle baissait la garde et quelque chose se relâchait en elle. Elle redevenait plus douce, plus ronde, plus méditerranéenne, comme si l'Italie l'emportait soudain sur l'Autriche. Quelque chose s'allumait dans son regard qui ressemblait à de l'amour. Pendant longtemps, j'avais été dépendant de cette étincelle. Je la guettais, je la quêtais, pensant toujours qu'elle était le prélude à un feu plus constant. Mais la flammèche ne dépassait jamais le stade de l'escarabille. Avec le temps, j'avais appris à ne plus me faire avoir. Je répondis par un laconique « Ne te donne pas cette peine, maman. »«
Mais si, ça me fait plaisir, Thomas. »
Mon regard accrocha le sien et lui demanda « Pourquoi tu fais ça ?» Elle avait détaché son chignon. Ses cheveux avaient la blondeur du sable qu'on trouvait sur les plages antiboises. Ses yeux brillaient de la clarté et de la transparence de l'aigle marine. J'insistais « Pourquoi es-tu comme ça ?» Mais les jours comme aujourd'hui, son regard était aussi fascinant qu'indéchiffrable. Ma mère, cette étrangère, se laissa même aller à un sourire. Je la détaillais alors qu'elle sortait des placards de la farine et un plat à tarte. Annabelle n'avait jamais été le genre de femme que les hommes s'autorisaient à draguer. Tout en elle annonçait le râteau assuré. Elle donnait l'impression de vivre ailleurs, sur une autre planète, inaccessible. Moi-même, tandis que je grandissais à ses côtés, je l'avais toujours trouvée trop. Trop sophistiquée pour la petite vie que nous menions. Trop brillante pour partager la vie d'un type comme Richard de Galais. Comme si sa place était parmi les astres. La sonnerie du portail me fit sursauter.
« C'est Maxime !»
lança Annabelle en pressant le bouton pour ouvrir. D'où lui venait ce ton soudain joyeux? Elle partit à la rencontre de mon ami, tandis que je sortais sur la terrasse. Je mis mes lunettes de soleil pour apercevoir une Citroën Bordeaux en train de franchir la porte automatique. Je suivis des yeux la familiale qui remonta l'accès bétonné pour se garer derrière le roadster de ma mère. Lorsque les portières s'ouvrirent, je vis que Maxime avait amené ses filles. Deux minuscules brunettes, mignonnes comme tout, qui semblaient très familières avec ma mère, lui tendant les bras avec une spontanéité charmante. Maxime avait dû se rendre au commissariat pour répondre à la convocation informelle de Vincent de Bruyne. S'il était déjà de retour et qu'il était venu avec ses enfants, c'est que l'entretien n'avait pas dû trop mal se passer. Lorsqu'il sortit à son tour, j'essayai de décrypter ses émotions sur son visage. J'étais en train de leur adresser un signe de la main quand mon téléphone vibra dans ma poche. Je jetai un coup d'œil à l'écran. Raphaël Bartoletti, mon photographe officiel.
« Ciao, Rafa !»
dis-je en décrochant.
« Ciao, Thomas ! Je te rappelle à propos de la photo de ton ami Vinca. »
Je savais qu'elle te plairait.
Elle m'intriguait même tellement que j'ai demandé à mon assistant d'en faire un agrandissement.
Oui ?
En travaillant dessus, j'ai compris ce qui me troublait.
Je sentis des picotements dans mon ventre. Dis-moi,
je suis à peu près certain qu'elle n'est pas en train de sourire à son cavalier. Ce n'est pas lui qu'elle regarde.
Comment ça ? C'est qui alors ?
Quelqu'un d'autre qui se trouve à 6 ou 7 mètres devant elle, à sa gauche. À mon avis, Tavinka ne danse même pas vraiment avec le type. C'est une illusion d'optique.
Tu veux dire que la photo est un montage ?
Non, pas du tout, mais elle a sûrement été recadrée. Crois-moi, les sourires de la ragazza sont adressés à quelqu'un d'autre.
Quelqu'un d'autre. J'avais du mal à y croire, mais je remerciais Rafa en lui promettant de le tenir au courant. Par acquis de conscience, je relançais Pianelli d'un SMS pour savoir s'il avait eu un retour de Claude Angevin, l'ancien rédacteur en chef du journal qui devait connaître l'auteur de cette fameuse photo. Puis je descendis l'escalier pour rejoindre ma mère, Maxime et ses filles sur la pelouse. Je remarquai tout de suite le volumineux dossier sous son bras et l'interrogeai du regard.
« Je t'en parle plus tard.
me glissa-t-il en sortant du siège arrière, un sac d'où émergeait un chien en pluche et une girafe en caoutchouc. Il me présenta ses enfants, deux petites boules d'énergie au sourire éclatant, et pendant quelques minutes, nous oubliâmes nos soucis grâce à leurs facéties. Emma et Louise étaient adorables, rigolotes, craquantes. À voir le comportement de ma mère, et même de mon père qui nous avait rejoints, je compris que Maxime était un familier de la maison. Je trouvais assez improbable de voir mes parents dans le costume de grands-parents, et pendant un instant, je me dis même que, d'une certaine façon, Maxime avait pris dans ma famille la place que j'avais laissée en partant. Mais je n'en éprouvais aucune amertume. Au contraire, le devoir que j'avais de le protéger de notre passé m'apparut comme une obligation encore plus impérieuse. Au bout d'un quart d'heure, ma mère conduisit les filles à la cuisine pour avoir de l'aide dans la confection de sa tarte aux abricots, dont le secret résidait dans les grains de lavande saupoudrés sur les fruits, et Richard remonta dans sa tour pour suivre la fin d'une étape cycliste. « Bien, » dis-je à Maxime, « et maintenant conseil de guerre. » 2. L'endroit le plus agréable de la Villa Violette était pour moi le pool house que mes parents avaient fait construire en pierre et en bois clair dès leur arrivée dans la maison. Avec sa cuisine extérieure, son salon d'été et ses voilures qui battaient au vent, il ressemblait à une propriété dans la propriété. J'adorais cet endroit où j'avais passé des milliers d'heures à lire, lové dans un canapé en toile écrue. Je pris place à l'extrémité de la table en teck, abrité sous une tonnelle ombragée où grimpaient des ceps de vignes vierges. Maxime s'assit à ma droite. Sans tourner autour du pot, je lui fis part de ce que m'avait révélé Fanny. À la fin de sa vie, Ahmed avait ressenti le besoin de soulager sa conscience. Le chef de chantier avait avoué à notre ami avoir emmuré le cadavre de Clément dans le gymnase sur l'ordre de Francis. Et s'il l'avait raconté à Fanny, il avait pu le raconter à d'autres. Ce n'était pas une bonne nouvelle pour nous, mais au moins on sortait du brouillard et on avait identifié le traître. Enfin, sinon le traître, du moins celui par qui le passé nous revenait en pleine gueule. Ahmed est mort en novembre. S'il avait parlé aux flics, ils auraient eu tout le temps de sonder les murs du gymnase, remarqua Maxime. Si l'inquiétude se lisait toujours sur son visage, je le trouvais moins accablé que ce matin et davantage maître de ses émotions. D'accord avec toi. Il a dû raconter son histoire à quelqu'un, mais pas à la police. Et toi, t'es passé au commissariat ?
Il ébouriffa ses cheveux sur le haut de sa nuque.
Ouais, j'ai vu le commissaire de Bruyne. T'avais raison, il voulait pas m'interroger sur Alexis Clément. Qu'est-ce qu'il cherchait alors ?
Il voulait me parler de la mort de mon père.
Pour t'en dire quoi ?
Je vais t'expliquer, mais avant il faut que tu lises ça.
Il posa devant moi le dossier qu'il avait apporté.
Cette entrevue avec de Bruyne m'a fait m'interroger sur quelque chose. Et si la mort de mon père était liée au meurtre d'Alexis Clément ?
Je suis perdu là.
Maxime explicita sa pensée. Je crois que mon père a été assassiné par celui qui nous envoie ses courriers anonymes.
Tu m'as dit ce matin que Francis était mort des suites d'un cambriolage qui avait mal tourné.
Je sais, mais j'ai minimisé l'incident. Pour faire bref, et à la lumière de ce que j'ai appris chez les flics, j'ai des doutes.
D'un geste de la main, il m'invita à ouvrir le dossier.
Lis ça et on en reparle. Je vais me faire un café, tu en veux un ?
J'acquiesçai de la tête. Il se leva pour se diriger vers un renfoncement qui accueillait une machine à expresso et un service à café. Je me plongeai dans le dossier. Il était constitué d'une multitude de coupures de presse se rapportant à une vague de cambriolages qui avait déferlé sur la Côte d'Azur à la fin de l'année dernière et au début de 2017. Près d'une cinquantaine de vols, touchant tous les coins huppés des Alpes-Maritimes, de Saint-Paul-de-Vence jusqu'à Mougins, en passant par les résidences de luxe de Cannes ou de l'arrière-pays niçois. Le modus operandi était le même chaque fois. Quatre ou cinq personnes débarquaient cagoulées dans les maisons, aspergeant les habitants de gaz lacrymogène avant de les ligoter et de les séquestrer. Le gang était armé, violent et dangereux. Il visait en priorité l'argent liquide et les bijoux. À plusieurs reprises, les malfrats n'avaient pas hésité à molester leurs victimes pour obtenir le code des cartes de crédit ou la combinaison du coffre-fort. Ces homejackings avaient terrorisé la région et causé la mort de deux personnes. Une femme de ménage qui était décédée d'un arrêt cardiaque lors de l'irruption du gang et Francis Biancardini. Rien qu'à Aurelia Park, la résidence dans laquelle habitait le père de Maxime, il y avait eu trois cambriolages. impensable dans un endroit censé être l'un des plus sécurisés de la côte. Parmi les victimes, un lointain parent de la famille royale saoudienne et un grand patron français collectionneur d'art, mécène et proche du pouvoir. L'homme n'était pas présent à son domicile au moment de l'intrusion, mais furieux de n'avoir pas trouvé de biens monnayables dans la villa, les cagoulards s'étaient vengés en saccageant les toiles accrochées au mur du salon. Ce qu'ils ignoraient, c'est que parmi elles figurait un tableau de grande valeur, intitulé « Dig up the hatchet », signé Sean Lawrence, l'un des peintres contemporains les plus cotés sur le marché de l'art. Sa destruction avait provoqué une vague d'émoi jusqu'aux États-Unis. Le New York Times et CNN avaient évoqué le cambriolage, et le nom d'Aurelia Park, autrefois fleuron immobilier de la Côte d'Azur, passait presque à présent pour une sorte de no-go zone. En un trimestre, de façon totalement irrationnelle, le prix des logements avait baissé de 30%. Pour mettre fin à la panique, la sûreté départementale avait constitué une équipe spécialement dédiée à la traque des cambrioleurs. À partir de là, l'enquête s'était accélérée. Prélèvement ADN, écoute téléphonique et surveillance à grande échelle. Début février, les flics avaient fait une descente au petit matin dans un village à la frontière italienne. Ils avaient interpellé une dizaine de types, des Macédoniens, certains en situation irrégulière, d'autres déjà connus pour des vols similaires. Ils avaient perquisitionné plusieurs maisons et avaient découvert des bijoux, du liquide, des armes de poing, des munitions, du matériel informatique et de faux papiers. Ils avaient retrouvé les cagoules, les couteaux et une partie du butin. 5 semaines plus tard, ils avaient coffré le chef du réseau qui se planquait dans un hôtel de Drancy. Il en était aussi le receleur et avait déjà revendu une grande partie du butin dans les pays de l'Est. Déférés à Nice, les malfrats avaient été mis en examen et écroués dans l'attente de leur procès. Certains avaient reconnu les faits, mais pas le cambriolage de Francis. Pas très étonnant, car ils encouraient 20 ans de réclusion si les chefs d'accusation étaient requalifiés en homicide volontaire.